au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Au fil des pages, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Laurent de Comines, peintre ornementaliste, qui est le co-auteur avec Alexandre Prader d'un ouvrage délicieux, très spirituel et un brin insolent, intitulé « Splendeur et misère de l'hôtel de Thunes » qui vient de paraître chez Jean-Claude Lattès. Alors, c'est un ouvrage difficile à classer, c'est une espèce de caprice littéraire. Vous allez nous le présenter, Laurent de Comines. J'ai envie de dire qu'il est extrêmement érudit, cet ouvrage, et qu'il est surtout un voyage initiatique pour certains, l'occasion de revisiter en tout cas l'histoire des arts décoratifs de la fin du XVIIe siècle à nos jours.
Oui, on peut voir les choses comme ça. Effectivement, c'est une fantaisie à quatre mains, de texte, une fantaisie littéraire illustrée par des dessins dont je suis l'auteur. En fait, c'est une variation d'histoire de l'art sur l'histoire d'un hôtel particulier commencé au XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, une histoire d'un hôtel particulier parisien construit par la famille des Bourrées de Thunes, dont rien que le nom déjà signifie qu'on est dans le domaine de l'ironie, de la satire, et donc par conséquent un jeu d'histoire de l'art sur le décor intérieur depuis le début 18e jusqu'à aujourd'hui, en jouant sur la comédie de mœurs et l'érudition.
Alors, peut-être qu'on peut situer les choses en disant que vous êtes... il ne s'agit absolument pas d'un pastiche, mais en tout cas, il y a un devancier célèbre qui est Philippe Julien.
Voilà.
Philippe Julien et ses Moreaux Chants d'honneur. Il y a une tonalité chez vous, une vitalité, une effervescence dans ce livre qui fait penser à Philippe Julien.
Voilà. Alors, Philippe Julien, peut-être faut-il mettre quelques mots sur ce personnage qui est un auteur un peu oublié aujourd'hui. Philippe Julien était à la fois un satiriste, un moraliste, un romancier des années 50-60, qui avait imaginé aussi comme ça des petites satires sur des châteaux improbables, imaginaires, ou dont il imaginait les décors intérieurs et toute l'histoire de la famille l'ayant habité, ou des meubles.
Les
mémoires d'une bergère, qui était une histoire très drôle, racontant l'histoire d'une bergère Louis XV, d'un fauteuil donc sorti d'un atelier d'ébéniste vers 1750, et dont l'histoire, passant de main en main, de génération en génération, arrivait jusqu'à aujourd'hui, et donnait par conséquent une satire de la comédie de mœurs tout au long du XVIIIe, du XIXe et du XXe siècle. Donc c'était effectivement notre point de départ, notre modèle, et nous avons brodé, nous avons imaginé quelque chose sur un bâtiment complet qui serait un hôtel particulier 18e, construit par des parvenus du début 18e, un fournisseur aux armées, et qui se serait enrichi et qui aurait commandé un superbe hôtel particulier et qui le laissait ensuite à ses héritiers, à ses enfants. Donc de génération en génération, nous passons de décor à la mode en décor à la mode.
Oui, c'est ça. Alors en fait, on commence vers 1680, nous sommes à Paris.
Un
échange, peut-être qu'on peut au moins présenter le début de l'ouvrage.
Voilà, nous sommes en 1700. 1700, c'est un fournisseur aux armées qui s'appelle La Potence, le père Poteux dit La Potence, qui fait fortune. À l'époque, vous savez, on était munitionnaire aux armées, c'est-à-dire qu'on fournissait la poudre, les uniformes, l'équipement, et on faisait d'immenses fortunes qui vous étaient ensuite remboursées de façon plus ou moins fastueuse par l'État. Donc, au moment des guerres, des dernières années de Louis XIV, on pouvait faire sur ce créneau-là une immense fortune. Ce que La Potence fait, un petit peu comme on faisait à cette époque-là, comme beaucoup de financiers faisaient à cette époque-là, il achète une terre, la seigneurie de Thunes, ensuite un hôtel particulier, un terrain à Paris, il fait construire. Et alors là commence, un étalage somptueux de richesses, mais en même temps du meilleur goût, parce qu'il s'adresse aux meilleurs ébénistes, aux meilleurs orfèvres, aux meilleurs tapissiers, Boulle en particulier, le fameux André-Charles Boulle, Coisevaux, les sculpteurs. Enfin bref, c'est une espèce de panorama des arts décoratifs les plus somptueux à cette époque-là.
Oui, alors il faut dire que l'ouvrage, d'épisode en épisode, puisqu'à chaque chapitre, une génération suivante de cette famille Bourrée de Thunes redécore, réaménage cet hôtel particulier jusqu'à aujourd'hui. C'est un bottin mondain des ornementalistes, des orfèvres, des ébénistes, des décorateurs, de ce qui s'est fait de mieux fait en France depuis 1780.
Oui, exactement. L'idée, c'est en fait illustrer le chic de chaque époque. C'est-à-dire pas faire un ouvrage d'histoire de l'art sec, un peu austère, avec des nomenclatures d'ébénistes ou de peintres, mais de faire quelque chose d'amusant, de pétillant. Donc, par exemple, sous la fille de ce La Potence, Mademoiselle de Thunes, on est dans le Paris des années 1740-50, elle est mariée à un jeune financier, mais qui lui-même est féru de coquillages, de porcelaine de Chine, comme on l'était à cette époque-là. Donc, on est dans un décor rocaille, froufroutant, il s'aménage un petit cabinet de curiosité, avec des instruments d'optique, des oiseaux empaillés, des papillons. Voilà. Et puis leur fils lui-même ira à Rome dans les années 1760, donc retour au néoclassicisme. Mais tout ça de façon très, comment dire, comédie de mœurs, c'est-à-dire que les hommes ne sont pas des modèles d'honnêteté financière, les femmes ne sont pas des modèles non plus de vertu, les portes claquent en quelque sorte, il y a du va-et-vient, on est dans Marivaux.
Alors, il y a une constante, c'est cette famille, c'est cette généalogie qu'on suit sur 7-8 générations, et puis il y a des tas de ruptures, et chaque rupture amène un style nouveau. Alors, ça va être l'affaire du Méchacébé, enfin du Mississippi, comme on disait, ça va être la Révolution française, qui est quand même aussi là, pour voilà, compenser une rupture définitive, et pas du tout. À
pas
chaque
du
génération,
tout, pas du tout, pas du
les
tout.
Faillites personnelles, oui. Les problèmes de vertu ou de ménage qui ne tiennent pas, sont le prétexte à réaménager cet hôtel particulier, et toujours avec le grand genre.
Toujours avec le grand genre. Alors évidemment, on s'est inspiré d'exemples historiques ou littéraires, les personnages décrits par Étive de la Bretonne, les personnages décrits par Balzac, etc. Par exemple, après la Révolution, Adrienne de Thunes revient sous le consulat, récupère les biens de son père, fait lever tous les séquestres, etc. Et elle devient une des reines du consulat sous le nom de Porphyria. Porphyria, bien entendu, c'est une allusion à l'état de jeune fille brillante et peu vertueuse de l'époque du directoire et du consulat. Elle s'amourage d'un beau maçon qui devient colonel dans l'armée de Bonaparte, qui part en Égypte, se couvre de gloire, et elle, pendant ce temps-là, évidemment, elle retape l'hôtel de famille qu'elle a pu récupérer dans le style le plus à la mode, c'est-à-dire qu'on est vers 1800, donc l'égyptomanie règne, vivant de nom, comment dire, l'arbitre des élégances dans le domaine du goût, aménage les décors d'un bal égyptien qui sera donné en l'honneur de Bonaparte et de son épouse dans les jardins de l'hôtel. Donc voilà, tout ça permet de faire vivre tout le petit monde du directoire et du consulat, qui sont tous évidemment des agioteurs, des prévaricateurs, des concussionnaires en tout genre, et puis des femmes particulièrement élégantes, c'est Juliette Récamier, c'est Madame de Staël, c'est Dieu sait qui, Constance de Salme. Voilà, tous ces petits personnages qu'on va retrouver ensuite dans les années 1810-1830, parce que époque fascinante qui va de la fin de la Révolution jusqu'au règne de Charles X, où là il y a des changements de style, de goût, politique bien sûr, continuels.
Alors ce qui est très agréable, c'est que je disais que c'est un ouvrage d'érudition. Votre co-auteur et vous, Alexandre Prader et vous-même, vous nous perdez. Vous êtes nos deux guides, nos deux cicérones, et on vous suit dans la visite de cet hôtel particulier qu'on visite de fond en comble.
De fond en comble,
qu'on
voilà.
Revisite à chaque époque. Mais alors, vous aimez nous perdre, c'est d'ailleurs très agréable pour le lecteur, parce que vous truffez vos descriptions de passages complètement apocryphes de Balzac que vous citiez, mais aussi de Madame de Sévigné. On pourrait voir Chateaubriand ou Madame de Staël s'écrire.
On les voit.
J'étais hier à dîner chez les bourrées de Thunes, ces gens sont d'horribles parvenus, mais en même temps, leur salon est exquis. Et
exactement.
Alors, c'est très difficile de distinguer le vrai du faux, et c'est ça qui rend cet ouvrage si réussi.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tout est plausible, tout est historiquement plausible, voire même probable, même si tout est imaginaire, mais on s'inspire de salons existants, de boudoirs ayant été le centre de coterie parisienne de l'époque. Donc Adrienne, par exemple, Adrienne dont je vous parlais, la citoyenne Porphyria, qui devient, sous la Restauration, une dame d'œuvre très catholique, et qui demande, qui se fait créer un petit boudoir gothique troubadour, donc là, elle invite Chateaubriand. Donc, c'est les mêmes personnages 30 ans plus tôt, qui étaient au fond des fêtards du consulat et du directoire, qui deviennent ensuite, comment dire, des personnages...
Des dames de vertu
sous Charles X. Et donc, voilà, ce petit boudoir troubadour, ou cette chambre empire, font référence à tout un monde parisien qui a disparu, mais qui a brillé, qui a même flambé à une époque, et dont on garde trace chez Alexandre Dumas, chez Balzac, chez Eugène Sue. Voilà, c'est l'idée d'un petit décor de théâtre, en quelque sorte.
Alors, vous parliez de vraisemblance, et cette vraisemblance, c'était un peu le fil conducteur, je dirais, de cet ouvrage. C'était quelque chose à quoi vous teniez avec Alexandre Prader. C'est une demande de l'éditeur, ou
pas du tout.
C'est ce qui assure finalement la colonne vertébrale du livre?
Non, l'éditeur a découvert le livre, enfin l'idée, on l'a parlé, il a découvert l'idée en même temps que nous l'expliquions. La colonne vertébrale, c'était la filiation de cette famille, de grand-père en petit-fils, de tante en neveu, de père en fille, avec à chaque fois une personnalité bien particulière. Alors, je vous dis, les hommes sont souvent des banquiers véreux, les femmes des coquettes lascives. Voilà, et le filiation, c'est ça, c'est cette espèce d'évolution, comment dire, serpentine du goût, où en général, la génération suivante n'a rien de plus empressé que de prendre le contre-pied de la génération précédente. Par exemple, en 1760, le fils bourré rentrant de Rome, donc féru de néoclassicisme, de colonnades, de triglyphes, de statues antiques, considère que le décor rococo des parents est une horrible chicorée vieillissante et qu'il faut à tout prix supprimer ça. Ou un peu plus tard, dans les années 1920, quand le couple qui habite à ce moment-là à l'hôtel jette sur un décor 1900 ou 1890 un regard horrifié en disant « Mon Dieu, tout ça a terriblement mal vieilli, ce décor symboliste ou ce décor Second Empire, etc. Il faut de la modernité, pure et dure. » Ça, c'est le prototype, en quelque sorte, des modes successives.
C'est le ménage Noailles faisant appel à Franck pour redécorer l'hôtel
de Bischofsheim. Voilà, exactement. Là, nous étions inspirés, effectivement, du couple que formaient Charles et Marie-Laure de Noailles dans les Paris des années 20 et 30. Qui reprend un hôtel de famille, très 1900, très 1880 même, et qui décide de le mettre au goût du jour. Donc on fait appel aux ébénistes et aux architectes les plus up-to-date, les plus novateurs. Donc il faut un esprit de rupture, il faut donc des meubles tubulaires en métal, il faut un sol en plastifié en pastille, il faut quoi, des murs en parchemin, etc. Exit tout ce qui a fait la gloire du 19e siècle. Mais comme le 19e siècle avait lui-même virer tout ce qui avait fait la gloire du 18e. C'est le jeu perpétuel du goût mouvant, changeant, qui fait la comédie de mœurs.
Alors, c'est très intéressant aussi pour le lecteur qui prend beaucoup de plaisir à avancer dans l'histoire de cet hôtel. Et on découvre des choses que vous savez parfaitement parce que vous êtes un homme de l'art, mais ces hôtels particuliers qu'on a conservés pour certains à Paris, ils n'ont jamais conservé le mobilier d'origine. Quand on vous dit que cet hôtel est resté dans son jus, non, il est resté dans le jus du dernier propriétaire.
C'est une légende.
Mais c'est important parce que, je ne sais pas ce que vous pensez de cette problématique dont on parle beaucoup en ce moment avec l'hôtel Lambert, par exemple.
Alors, d'abord, il faut tordre le cou à une légende que nous avons nous-mêmes entretenue dans ces pages, puisque nous jouons souvent avec des petits restaillons des époques précédentes que l'époque suivante remet au goût du jour. Il n'existe pas, ou quasiment pas, en France, s'il en existe un, il faudrait qu'on le signale, un château, et encore moins un hôtel urbain, qui aurait conservé son décor ou son ameublement intact d'il y a deux siècles, de l'Ancien Régime par exemple, et même du 19e siècle. Par définition, le goût change, comme je l'explique, comme nous l'expliquons dans ce livre, mais aussi tout simplement depuis deux siècles, les règles de succession font que les mobiliers sont éparpillés, dispersés, les hôtels sont divisés, vendus, rachetés, etc. Pour les châteaux de campagne, c'est un petit peu moins fort, mais enfin, c'est également le cas aussi. Qu'on me trouve, je serais ravi qu'il existe encore au fin fond de la Provence ou de la Lorraine, un petit château 1750 qui ait conservé son décor Pompadour dans son jus. Mais je n'y crois pas, ça n'existe pas, par définition, tout change. Quant aux hôtels parisiens, encore plus, la spéculation et le changement de mode décoratif fait qu'il reste au mieux une pièce, une rampe d'escalier, un vestibule, parfois un petit boudoir, mais qui très souvent lui-même a été repeint, réaménagé, on a refait la dorure, au 19e on l'a surélevé, baissé des fenêtres, élargi des embrasures de portes, etc. Mais c'est tout le charme aussi de l'histoire de l'art, c'est qu'elle est l'histoire des arts décoratifs, c'est qu'ils sont en perpétuel mouvement. Donc, pour faire une allusion à l'hôtel Lambert dont vous parliez, cet hôtel a subi des tas de transformations depuis l'époque du président Lambert, qu'il avait construit, je crois, à la fin du XVIIe siècle. L'époque Voltaire, c'était un état. L'époque de la Révolution aussi. Ensuite, l'époque 1850-60, à l'époque, c'était une famille polonaise qu'il possédait. Donc, l'avait mis un petit peu au goût du jour, donc dans un Louis XV ou un Régence très, très Second Empire. Et puis ensuite, les Rothschild, quand ils l'ont habité à nouveau, l'ont transformé. Et aujourd'hui, son propriétaire actuel, qui est un prince qatari, je crois, va faire aussi des modifications. Mais il n'y a pas de raison de le suspecter a priori, d'abîmer. Il va probablement respecter ce qui doit être respecté, aménager ce qui doit l'être en fonction de la vie moderne de quelqu'un qui vit en 2009 ou 2010 à Paris et qui a besoin de monte-charge, d'ascenseur, qui a besoin de... Je ne pense pas qu'on puisse lui faire un procès de consacrer d'ailleurs autant d'argent pour la restauration d'un hôtel qui sinon aurait été à la charge du contribuable français ou parisien. Donc voilà, c'est le type même du faux procès qu'on fait à très souvent aux propriétaires d'hôtels anciens ou de châteaux anciens quand on les suspecte de vouloir abîmer ou transformer une demeure ancienne. Si c'est fait avec goût, et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas fait avec goût, surtout que vraisemblablement des architectes des monuments historiques surveilleront le chantier, voilà, le type même de la fausse polémique que je tiens à dégonfler.
À dissiper. Laurent de Comey, nous marquons une pause et nous reprenons ensuite notre visite de l'hôtel de Thunes.
On connaît le célèbre portrait de Pierre Loti, réalisé par le douanier Rousseau. Mais qui était ce militaire romancier fou de l'Empire ottoman que la Turquie vénère aujourd'hui ? David Gaillardon nous brosse le portrait de Pierre Loti, immortel de l'Académie française, à travers son discours de réception sous la coupole en 1891 et lors de l'hommage que l'Académie lui a rendu à sa mort en 1923. Pierre Loti, le voyageur des lettres, une émission en habit vert à télécharger librement sur le site de Canal Académie.
Nous retrouvons Laurent de Comey, peintre ornemaniste, qui est le co-auteur de Splendeur et misère de l'hôtel de Thunes, un caprice qui est une évocation de la décoration, de la redécoration permanente, je dirais, au fil des générations, d'un hôtel particulier parisien par une famille au nom extraordinaire, les Bourrées de Thunes. Laurent de Comey, nous évoquions tout à l'heure le devenir de l'hôtel Lambert, qui fait beaucoup parler actuellement, avec sans doute beaucoup d'exagération, comme vous le restituiez avec beaucoup d'exactitude. Il y a un autre exemple, qui est un exemple qu'on peut aborder parce que Bestegui et Emilio Terry sont deux personnes qui passent en filigrane dans Splendeur et misère de l'hôtel de Thunes, c'est le cas de Grousset. Grousset qui est un lieu extraordinaire de décoration, d'aménagement à partir d'un hôtel particulier, enfin pas d'un hôtel particulier d'ailleurs, d'un manoir de province, retravaillé par Emilio Terry à la demande de son propriétaire à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et un château qui a été intégralement vidé de son mobilier il y a 5 ou 6 ans, et que son propriétaire actuel a remeublé avec beaucoup de goût, et en restant fidèle à un esprit qui est le fameux esprit Bestegui.
Voilà. Oui, le phénomène de Grousset et l'histoire de Bestegui est un chapitre à part dans l'histoire des arts décoratifs du XXe siècle, et en général très peu connu du grand public, sauf la génération, peut-être, parmi les auditeurs qui nous écoutent, des gens qui se souviennent des numéros de connaissance des arts des années 50 et 60, donc ça fait pratiquement une petite cinquantaine d'années tout ça, qui montraient les réalisations de cet homme. C'était un châtelain, j'en dis deux mots, c'était un châtelain d'origine mexicaine, enfin un milliardaire, un homme très riche en tout cas, d'origine espagnole et mexicaine, qui s'installe à Paris dans le milieu des années 30, mais qui à l'époque où la modernité pure et dure régnait en maître, Le Corbusier, Miles Stevens, décide de se tourner, et c'était un des premiers à le faire, vers le répertoire des arts décoratifs européens traditionnels, 17e siècle, 18e, 19e, et en faire un espèce de condensé, non pas parodique, mais au contraire très ludique, je dirais, plutôt un peu théâtral, à l'intérieur d'un château qu'il venait d'acheter juste avant la guerre, qu'il va meubler et décorer pendant la guerre et dans les années 50 et 60.
Aux portes de Paris, à Montfort-l'Amaury.
Voilà, dans un petit village à l'époque qui était très rural, qui s'appelait Montfort-l'Amaury, et qui d'ailleurs qu'il contribuera à mettre à la mode à ce moment-là. Et c'est un château 19e qu'il va agrandir, transformer, et dans lequel il va créer, une espèce de condensé, non, c'est pas tout à fait le terme, c'est plutôt une relecture des grands styles européens d'intérieur, par exemple le style hollandais, l'âge d'or du décor intérieur hollandais, donc des années 1600-1650, qu'on pense aux atmosphères de Vermeer, qu'on pense aux atmosphères des natures mortes hollandaises, cette espèce de Louis XIII un peu précieux, un peu nocturne, un peu... Voilà, par exemple, donc il aménagera des salles à manger et des salons dans ce goût-là. Il créera un petit théâtre dans une autre aile du château, très inspiré par contre, lui, du théâtre allemand, de la Margravine de Bayreuth, mais qu'il remaniera dans un esprit très haute couture. On est dans les années 50, donc c'est l'univers de Jacques Fatt, de Balenciaga, etc. Une grande bibliothèque, une célèbre bibliothèque qui avait fait couler beaucoup d'encre d'impression à cette époque-là, qui était une grande bibliothèque inspirée des bibliothèques anglaises et nordiques, pour laquelle il avait évidé deux étages, le rez-de-chaussée et l'étage du premier étage du château de Grousset, pour en faire une pièce très très haute sous plafond, très longue, qui allait d'une façade à une autre, avec tout un jeu d'escaliers en acajou, ouvrant sur permettant d'accéder à des galeries, la galerie tournante, courante tout autour de la pièce. Une ambiance de velours rouge, d'acajou, de pierres dures, de tableaux à touche-touche, qui évoquait aussi bien les intérieurs 18e italiens, romains, que les bibliothèques anglaises du 19e siècle. Tout ça imbriqué les uns dans les autres, formant un style à lui, un style à part, qu'on appellera le style Bestegui. pourquoi nous parlions de Grousset. Oui, comme un exemple de ces aménagements et de ces transformations. Alors, à la mort de Charles de Bestégui, en 1970, le château reste encore quelques temps dans sa famille, et puis après, il est vendu dans une vente restée célèbre en 1999. Vente d'ailleurs qui inspirera un petit peu la vente que nous décrivons dans l'hôtel de Thun. Donc une grande vente, on l'appellera la vente du siècle, parce que seront mis à ce moment-là d'un seul coup sous le marteau, ils seront dispersés sous le marteau. Eh bien, on va dire 30 ans d'amoncellement d'art décoratif que Charles Bestégui avait fait dans cette maison, mais surtout la dispersion d'un style qui n'appartenait qu'à lui, fait de tissus très bien choisis, de couleurs très assorties, d'objets hétéroclites parfois, enfin hétérogènes sur le plan stylistique, mais qu'il avait l'art de bien marier ensemble, et qui donneront d'ailleurs le nom, enfin qui recevront l'appellation de style Bestégui. Donc ce château à ce moment-là est dispersé, enfin le contenu est dispersé, c'est une très très belle vente. Et le château est acheté, lui-même, est acheté par
Jean-Louis Remilleux, producteur de
télévision, qui m'a donné l'occasion de revoir récemment cette maison, et qui l'a évidemment repris vide et qu'il s'est employé à remeubler. Et je trouve, sur mon goût personnel, qu'il a bien réussi cet exercice de style. Il n'a pas retrouvé, bien sûr, totalement, comment dire, les objets propre au style Bestégui, mais il a retrouvé néanmoins l'atmosphère d'une maison,
l'esprit
d'une maison de famille très bien meublée, avec des meubles d'inspiration diverses, comme s'il y avait dans la même famille des branches russes, des branches polonaises, des branches italiennes, des branches anglaises, qui, par un jeu d'héritage improbable et imaginaire, auraient abouti à Grousset. C'est-à-dire, au fond, la même démarche qu'avait eu Charles de Bestégui, avec des objets plus spectaculaires, bien sûr, que ceux trouvés par Jean-Louis Remilleux, mais qui relèvent un peu de la même méthode, de la même approche. Et donc ça donne quelque chose de très théâtral, plus théâtral encore qu'un château de famille réel, d'origine, tel que ceux qu'on peut apercevoir en province, et qui eux souvent ont subi le phénomène inverse, c'est-à-dire le phénomène de départ, très meublé au départ, au début, et puis ensuite, peu à peu, il se vide. Tandis que là, c'est l'inverse.
Alors c'est une chance pour Grousset, c'est une chance que n'aura pas l'hôtel des Bourrées de Thunes, puisque le dernier des descendants de cette famille, de cette illustre famille, Bobby de Thunes, frappé par une noix de coco sur le bord de la piscine à Aspen, je crois que c'est ça.
À Palm Beach,
disparaît, et avec lui disparaît tout l'univers, enfin tout l'hôtel particulier. Alors c'est le dernier chapitre de votre caprice.
C'est l'avant-dernier, voilà.
C'est là aussi, on parlait de morceaux de bravoure tout à l'heure, c'est une apothéose. Et alors on sent aussi que c'est un coup de griffe des deux auteurs, Alexandre Prader et vous, à tout un monde aujourd'hui qui est sans dessus-dessous, où les codes sont entremêlés, s'ils existent encore d'ailleurs. Cette vente, cette dispersion, c'est une fin du monde.
Oui, on a appelé ça la vente du siècle, justement, en faisant allusion
Grousset.
À la vente de Grousset, à la vente d'Alexis Dredé, enfin à ces grandes ventes, à la vente de Saint-Laurent, même quelque part on peut le dire, bien que le cas soit un petit peu différent. Ces espèces de grandes ventes somptueuses, où pendant 3-4 jours sont dispersés sous le marteau des objets superbe ou moins superbe, mais qui forme un goût, qui forme un ensemble, qui forme une espèce de légende. Et dans le cas de l'hôtel de Thunes, on a voulu effectivement forcer le trait, accentuer. Donc, tout le côté grand genre du XXe siècle, on faisait allusion tout à l'heure à Noailles, mais ensuite, dans les années 50, nous avons imaginé le personnage de Bobby de Thunes, qui dans les années 50 tient un espèce de rôle mondain très important à Paris, à travers des bals costumés, à travers des aménagements de son hôtel. Et ce qui fait que, à sa mort, dans les années, on suppose dans les années 1998 ou 19 ou 2001, 2002, comment dire, c'est toute une page du XXe siècle, des personnages comme des peintres comme Léonore Fini, comme Drian, comme Salvador Dali, comme des illustrateurs comme Serebriakov, comme Lila Nobili, des noms qui ont laissé un souvenir dans l'avant-guerre, l'après-guerre, sont aujourd'hui devenus un peu mythiques pour certains collectionneurs, et donc par conséquent on imagine une flambée des prix autour de ces reliques, autour de ces vestiges d'un monde aujourd'hui, comme vous dites, totalement disparu, mais qui fait encore rêver des tas de gens.
Alors ça, c'est le premier avatar de l'hôtel de Thunes. Le second est terrible, l'hôtel ne s'en mettra pas.
Et alors l'épilogue,
l'hôtel qui était à un moment laissé, si je me souviens bien, à la Société pour la protection des animaux, est finalement vendu et devient un centre d'art contemporain.
Alors, entre-temps, il y a un tout petit intermède, c'est-à-dire que donc l'hôtel lui-même est vendu, là nous sommes au début des années 2000, l'hôtel est vendu, acheté par un nouveau riche moldave, donc là nous avons évidemment fait un pastiche des nouveaux riches russes, ukrainiens ou autres qui débarquent à Londres ou à Paris avec leurs millions de dollars et qui s'offrent comme ça des demeures somptueuses, dont ils ne comprennent en général pas toujours la signification historique, mais qui flattent leur ego. Donc très souvent, ils le remeublent à ce moment-là avec les tendances du jour. Et les tendances du jour aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le mobilier en métal des années 50, c'est les choses de Charlotte Perriand, de Prouvé, de Le Corbusier, toutes choses qui sont, nous dirons, intéressantes, mais qui ne vont pas, à mon avis, dans la tradition d'un grand hôtel 18e parisien. Bon, mais le Moldave dans la cure et continue. Inévitablement, il y a un krach boursier qui fait que le Moldave est obligé de revendre. Et à ce moment-là, l'État achète l'hôtel pour en faire un centre d'art contemporain. Le rayonnement, pour assurer, bien sûr, entre guillemets, le rayonnement de l'art contemporain français. Alors là nous sommes donné libre cours à notre ironie mordante et nous avons pastiché le palais de Tokyo. Peut-être certains auditeurs auront-ils vu l'état actuel de ce très beau bâtiment des années 30.
Éventré.
Transformé, hélas, officiellement un centre d'art contemporain. Ça ressemble plutôt à un champ de ruines parce que tout a été éventré, cassé,
tagué.
On a éventré les plafonds. Et quand j'ai posé la question à des gens sur place, on m'a répondu « Mais oui, monsieur, il s'agit d'une mise à nu ». D'une mise à nu de l'ossature, dans une démarche intellectuelle, etc. Moi, je voyais surtout des Dresde après le bombardement. Mais enfin, bon, je n'ai pas osé faire de commentaires. Donc, je me suis vengé. Et dans ce petit texte, nous avons imaginé l'hôtel de Thunes transformé en palais de Tokyo et livré, bien entendu, à des artistes d'art contemporain ou qui se veulent tels, et avec toutes les errances, les outrances, sur lesquelles nous portons un regard ironique. Mais je précise que nous avons porté un regard ironique sur toutes les autres périodes de ces siècles écoulés, dont par conséquent, ni plus ni moins, peut-être un petit peu plus, voilà.
Alors nous refermons à regret la porte de l'hôtel de Thunes. Je rappelle que l'ouvrage « Splendeur et misère de l'hôtel de Thunes » a paru chez Lattès il y a quelques semaines. Je disais que les textes étaient d'Alexandre Prader et que vous aviez fait les dessins. En fait, c'est un peu plus complexe. C'est un travail d'amitié, donc vous vous êtes inspiré l'un l'autre.
On s'est inspiré l'un l'autre.
Vous avez vous-même signé ces planches magnifiques et l'écu de lampe qui ornent ces chapitres. Et puis vous avez contribué, car on sent, pour vous connaître un peu, qu'il y a des choses dans le texte qui relèvent de votre imaginaire.
Oui, bien sûr, des petits détails. Disons que je me suis appliqué pour chaque chapitre à illustrer le décor, qui sont donc, comme je l'ai dit, des cabinets de curiosité, des chambres empires, des boudoirs, des oratoires troubadours ou des petits salons symbolistes, de façon la plus théâtrale, la plus scénographique. Mes références graphiques, ce sont les ballets russes, ce sont les décors de théâtre du 19e siècle, ce sont les illustrations des contes pour enfants. Voilà, donc j'ai travaillé les couleurs, les lumières, les atmosphères, pour essayer de faire quelque chose d'agréable à l'œil, à l'esprit. Voilà, que ça ne soit pas, surtout pas, sec, et vraiment histoire de l'art au sens sèche du terme, plutôt comme une espèce de conte illustré.
Je tiens à dire à nos auditeurs que ce livre, on rit beaucoup, on prend un énorme plaisir à le lire, on prend beaucoup de plaisir à découvrir vos dessins. C'est un cadeau magnifique, en tout cas, c'est très spirituel, c'est brillant et très bien enlevé. Je vais juste rappeler que vous êtes peintre et ornementaliste, et que Alexandre Prader, avec qui vous avez mis à jour ce livre, était, jusqu'à une date récente, directeur du département du mobilier ancien chez Sotheby's. Voilà. Et je crois qu'il travaille actuellement sur Crescent, c'est ça ?
Il a travaillé sur les ébénistes, un spécialiste des arts décoratifs 18e. Et donc, il était très bien placé pour décrire tout cet univers des ventes publiques, des collectionneurs et de toute la mythologie qui tourne autour.
Laurent de Comines, je vous remercie.
Moi aussi.